Du must.
Une production d'hormones qui, à son comble, entraînait les pachydermes à affirmer leur domination jusqu'à en perdre la raison. Rendus fous par la testostérone, les mâles en rut chargeaient les lions, parfois sur de longues distances, attaquaient les vieux dominants qui fuyaient sans demander leur reste, leurs congénères et tout ce qui passait à portée de leur furie, loin de la sagesse présumée de l'espèce. Et l'odeur du placenta avait attiré le désaxé. Le géant venait vers eux, détruisant tout sur son passage, et John sentit arriver le drame. Le bébé Rhino ne parvenait même pas à se hisser sur ses genoux. Dinah était trop faible pour le protéger, et au barrissement du forcené, il était clair que le grand mâle semblait prêt à piétiner ce qui bougerait sous ses pas. Une question de secondes avant qu'il ne tombe sur le lieu de l'accouchement. John courut à découvert jusqu'à la voiture, décidé à détourner la fièvre sexuelle de l'éléphant qui de fait le prit pour cible. Il chargea au moment où John se jetait sur le volant. 2,5 tonnes de tôle industrielle contre 7 de chair et de fureur. Le Land Cruiser faisait un piètre refuge que l'animal pouvait renverser comme une bûche avant de s'acharner sur l'ennemi expiatoire d'une colère sans objet. Le moteur répondant au quart de tour, John poussa la première, les barrissements à ses trousses. Le mâle fonçait vers lui en faisant trembler le sol, le Must pour guide, une fusée lancée à plus de 50 km/h qui gagnait du terrain. John enclencha la seconde, arracha des branches d'épineux sans se soucier des soubresauts et des hurlements du moteur, rebondit sur le sol inégal de la savane, des frissons inconnus dans le dos. L'éléphant le rattrapait inexorablement. Il pouvait le voir agiter les oreilles dans le rétroviseur qui brinque-ballait, barrissant un courroux qu'il ne maîtrisait plus. 20, 15, puis 10 mètres les séparaient, mais John garda son sang-froid. Comme il l'espérait, les deux éléphantes croisées plus tôt se tenaient toujours près du point d'eau. Elles avaient commencé à s'éloigner, effrayées par leur affût et la frénésie du grand mâle, sans savoir que John le menait à elles. Le possédé talonnait le tas de ferraille puant qui tentait de lui échapper quand il détecta la présence des deux femelles près de la mare. Stoppant brusquement sa charge, l'éléphant détourna son attention et, changeant de direction à grand renfort de poussière et de cris, se lança à la poursuite des jeunes éléphantes qui avaient pris la fuite. Elles disparurent les premières derrière les épineux, pourchassées par l'ébarrissement du démon qui poursuivit sa course folle avant de s'évanouir à son tour. La savane était étrangement calme après le chaos du Must. Quand John revint sur ses pas, le long corne montait la garde en bordure des acacias où avait accouché la femelle, ses naseaux frémissants tournés vers le Land Cruiser. « Il est bien le temps de la ramener, toi. » Chapitre 9. La majorité des Ovambos croyaient en un esprit supérieur, Kalunga, qui prenait la forme d'un homme invisible bienveillant, expliquant peut-être pourquoi les Ovambos étaient devenus une des ethnies les plus christianisées d'Afrique. La référence à Kalunga était toujours présente dans les Bibles écrites en dialecte Ovambo, et la grand-mère de Seth ne ratait jamais les sermons du dimanche à l'église. C'est elle, Wilmine, qui l'avait élevée, une femme à la beauté jamais fanée malgré la mort prématurée de son mari. Le premier drame de leur famille. Militant indépendantiste et cadre de la SWAPO, son courageux mari avait été raflé par les services de sécurité sud-africains, plus féroce à mesure que la libération du pays semblait inéluctable. On l'avait retrouvé mort dans un fossé, torturé, quelques semaines seulement avant la fin du régime raciste de la Namibie, au début des années 1990. Mais on ne balayait pas un demi-siècle de ségrégation facilement. Les anciens homelands, où les Noirs étaient parqués sur des terres infertiles, manquaient toujours d'infrastructures et continuaient d'abriter les populations pauvres fuyant la misère des campagnes, en particulier au nord, centre de tri historique de la main-d'œuvre qui travaillait dans les zones de police blanches. La région de Caprivi, qui avait servi de base arrière à l'armée sud-africaine engagée contre les combats de la SWAPO, avait été dotée de routes et d'hôpitaux, mais les inégalités sanitaires restaient criantes, les maladies infectieuses n'épargnant personne avant que le sida aggrave la situation. La Namibie était un des pays les plus touchés au monde, voyant son espérance de vie chuter à 43 ans au milieu des années 2000. C'est ce qui avait tué les parents de Seth, emportés par la maladie alors que leur enfant n'avait pas dû.